Terrorist networks, terrorist states.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, votre émission sur le libre, le logiciel libre, c'est l'émission numéro 82 ou la deuxième émission de cette saison 8. Alors au sommaire aujourd'hui, une revue de presse, un rendez-vous qui va être hebdomadaire avec Emmanuel Charpentier de l'April qui nous rejoindra par téléphone pour détailler cette revue de presse. Une petite capsule québécoise par nos amis de la Voix du Libre de CKIA de Québec sur le 88.3. Ils nous détailleront qu'est-ce que POP, IMAP, SMTP. Et puis, en deuxième partie, nous retrouverons le président de l'association ILOT, une toute nouvelle association. Donc, en la présence de Jonathan Rouche, une association qui est un fournisseur d'accès associatif, et puis on terminera cette divergence numérique avec l'agenda du libre. Merci à vous de nous écouter sur le 93.9 de Divergence FM et puis sur Radio Escapade maintenant sur les fréquences respectives du 104.1 et 103.3. Mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front. Et oui, les nouvelles du front avec l'intervention maintenant qui va être régulière de Emmanuel Charpentier de l'April. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Pascal. Enchanté d'être sur ton émission.
Oui, enchanté. Et puis comme ça, on agrémente un petit peu l'émission puisque c'est un rendez-vous qui est tout nouveau et qui va être régulier. Donc on va détailler ce que fait, disons, l'April fait une revue de presse hebdomadaire. À toi l'honneur.
Merci bien, merci bien. Donc ben, je commence tout de suite avec une petite dizaine d'articles depuis la semaine dernière. Donc le premier de Le Maguit par Cyril Chausson. C'est un article sur l'open source et le difficile pari de la contribution. Car oui, il est difficile en fait ça c'est un sujet très global, le fait que les articles, les contributions des logiciels libres sont la base de tout ce qui forme aujourd'hui notre écosystème. Mais trouver les contributeurs et les pousser à venir contribuer d'eux-mêmes n'est pas toujours aisé. Donc un très bon article de sa part, on pourra trouver sur le Magit. Le Monde informatique a fait un article il y a peu par Bertrand Lemaire sur Linux qui a fêté son 19e anniversaire. Donc c'est un petit retour sur les origines, le 5 octobre 91, le système d'exploitation largement diffusé qui est devenu emblématique du logiciel libre est paru à ce moment-là, Linus Torvald sur un forum qui est venu s'exprimer et demander de l'aide, justement. Ensuite, un article de Mars Actu, donc un site lié à Marseille, de Julien Vincent, donc à propos de la mairie de Marseille qui zappe Linux pour Windows 7. En l'occurrence, une mauvaise nouvelle, car contrairement aux annonces qui avaient été faites, des annonces tout ce qu'il y a de politique, la ville de Marseille finalement s'est rétractée tout simplement. Il semblerait que ce soit suite à un changement de direction du service informatique. Le directeur actuel ne se sent pas assez compétent pour utiliser du logiciel libre dans ses services. C'est peut-être un peu dommage. La compétence viendra, peut-être un autre tour d'horizon quand il y aura du changement politique.
Linux fait peut-être un peu peur encore.
Tout à fait, exactement. Ça, c'est en fait, ils ont tout simplement peur des coûts de reconversion des personnels et des mécontentements d'une manière générale que les gens peuvent remonter. Il faut former, ça fait peur.
Alors que oui, la semaine dernière, on avait l'interview de Vincent Feltès, qui est le président de la CUB, hein, communauté urbaine de Bordeaux, où justement, avec les économies faites concernant les déploiements des postes informatiques, surtout de la suite bureautique OpenOffice, ces économies-là sont passées dans un budget formation.
Tout à fait, mais ça malheureusement, c'est quelque chose à long terme qu'il faut envisager. Les licences et les gains sur les licences sont phénoménaux. Et les gains aussi en termes de fiabilité tout simplement sont vraiment vraiment très forts, mais malheureusement c'est quelque chose qui se voit sur du long terme et quand on est en politique parfois on ne réfléchit pas sur ce long terme. Très dommage.
Dommage en effet.
Nous verrons, bon, il y a d'autres villes qui ont fait des efforts aussi, hein, Bristol, Munich, où il y a eu des mauvaises nouvelles aussi, et d'autres villes où il y a de bonnes nouvelles, comme Paris, qui utilise du libre par ailleurs. On verra avec le temps.
Exactement.
Donc, un autre article de Publinews, justement, qui parle des administrations françaises. Les administrations françaises affirment l'open source comme un stimulant de l'innovation et envisagent de l'introduire en mode cloud. Donc, c'est un article de la rédaction de Publinews qui reprend une étude de Marques International. Donc, c'est un cabinet de conseil, quelque chose d'assez important et d'assez reconnu, et qui fait toute une analyse avec des retours de directeurs de services informatiques de l'administration. Et comme quoi, statistiquement, dans ces administrations, il y a beaucoup d'attentes de logiciels libres, et notamment de logiciels libres en mode cloud. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à l'antenne beaucoup, le mode cloud, ça permet en grande partie, c'est pour éviter d'avoir à gérer soi-même le matériel, les serveurs, les ordinateurs. On ne se préoccupe plus que du logiciel qui tourne dessus. Et en l'occurrence, le logiciel le plus approprié de l'avis de beaucoup de ces directeurs d'administration, c'est du logiciel libre. Donc une bonne nouvelle va en chasser une autre, j'espère. On verra avec le temps. Donc un article de PC Impact sur l'Adopi.
Ah, l'Adopi.
Oui, un des sujets les plus intéressants, les médias l'adorent et on fait que l'ont utilisé à foison tout cet été. Donc l'Adopi sèche sur sa saisine éventuelle par le monde du libre. Donc c'est un article de Marc Ries. Et tout simplement, il y a eu des discussions il n'y a pas longtemps, notamment un chat organisé par le Parti Pirate. Et l'Adopi a été incapable de répondre à une question simple. La Adopi, je vous reprends la question, hein. La Adopi sert normalement à protéger les droits d'auteur sur Internet. Que fait-elle pour les personnes physiques ou morales violant les licences dites libres ? Et ce n'est tout simplement pas dans le genre de choses auxquelles ils peuvent répondre, parce que je pense que ce n'est pas tout simplement dans leur état d'esprit. Les licences libres ne sont des licences comme les autres, mais elles n'ont pas de protection aujourd'hui.
C'est vrai que médiatiquement, c'est très focalisé sur les réseaux peer-to-peer, téléchargement illégal, alors que la loi est plus large que ça. Hein, c'est vraiment de la protection sur le droit d'auteur. Donc on peut saisir la haute autorité pour justement dire ben j'ai mon œuvre là qui est partie un peu comme ça sur le net. J'aimerais bien que vous regardiez qu'est-ce qu'il en est et que justement vous saisissez les fournisseurs d'accès, etc., pour que mes droits soient respectés.
Et oui, mais aujourd'hui, malheureusement, comme tu dis, ils sont concentrés sur le peer-to-peer, et avant tout, ceux qui vont protéger, c'est pas nous, les développeurs du libre, c'est Madonna, Michael Jackson, qui a priori n'a plus trop besoin, mais en tout cas, lui, il va être protégé, et les grosses majors, de manière générale. Mm-hmm. C'est vraiment eux qui contrôlent ça, c'est eux qui ont la monnaie, c'est eux qui ont l'ambition et qui poussent le ministère de la Culture à les protéger. Mm. Donc on verra avec le temps, est-ce que c'est juste la protection d'une rente ou est-ce que c'est vraiment pour générer de la créativité? Bon.
Ouais, surtout que l'Adopi dit sécuriser votre accès à Internet, mais ils disent pas avec quoi et comment, actuellement.
Mais c'est pire que ça, c'est qu'ils savent pas comment le faire. Hein.
Oui, aussi.
Il y avait des choses assez amusantes où Christine Albanel, quand elle était ministre de la Culture, avait proposé d'utiliser OpenOffice comme un firewall. Donc en l'occurrence, OpenOffice traitement de texte, un firewall c'est une technologie de protection d'un ordinateur. Les deux ne sont pas semblables l'un avec l'autre de quelque manière qu'on y regarde. Et donc bon, c'était bien ridiculisé, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière.
Oui, un joli lapsus qui avait donné des idées à un développeur qui avait fait une sorte de macro pour avoir un pilotage du pare-feu sous OpenOffice, comme quoi c'est possible finalement.
Et voilà, il y a un petit contributeur qui s'était réveillé et qui s'était dit « Allez, je vais montrer que c'est possible ». Bon, le pied de nez était vraiment des plus rigolos, j'avoue que c'est à refaire. Là, en l'occurrence, ils ont d'autres problèmes avec la Adopi, ça fait pas partie telle quelle de la revue de presse, car l'Adopi n'est pas forcément un sujet tout de suite lié au logiciel libre. Donc je ne sais pas si ça t'est déjà apparu, mais en l'occurrence, l'Adopi commence à envoyer des mails, soi-disant.
Paraît-il. Alors si vous en avez reçu, vous nous écoutez, appelez-nous donc au 04 67 66 33 33, ça peut vous faire sourire, mais je serais bien intéressé de savoir si effectivement des gens ont reçu ce fameux courrier
qui dit en fait pas grand-chose en disant juste contactez-nous pour savoir qu'est-ce que vous avez finalement fait.
Et oui, là, c'est la grande quête en ce moment. Il y a beaucoup de sites web qui recherchent les internautes qui ont reçu une vraie lettre de la Hadopi, une vraie, parce qu'il y a eu beaucoup de fakes qui ont circulé cet été.
Aussi,
et c'est assez difficile. Donc, les grands magazines du libre, on va dire, c'est PC Impact et Numérama, ils sont en quête de ces courriers-là. Pour l'instant, il semblerait qu'il y en a eu un qui a été spoté chez un internaute. Et je crois que c'est Bouygues et Numéricable qui ont commencé à envoyer les premiers courriers.
Orange, sans doute, aussi, hein, je pense.
Ils ont lancé, je crois que c'est lundi, parce qu'il y en a qui ont commencé avant la date prévue. Et oui, il y en a qui collaborent à la loi, on va dire. Et en l'occurrence, Free s'est démarqué et se démarque en ce moment. Ils font un peu un gros bruit et ça peut leur aider médiatiquement. Par ailleurs, ça va leur créer beaucoup d'ennemis politiquement. C'est que Free a refusé, pour des questions techniques, d'envoyer les mails à ses abonnés.
Je te propose de faire une petite respiration musicale pour poursuivre cette revue de presse. Alors, notre fil conducteur, c'est l'artiste Forgé des Landes, de Morsinx, plus exactement, qui nous fait de la musique libre et plus exactement c'est une licence Creative Commons non commerciale Sampling Plus 1.0. Je vous invite à aller sur le site de dogmasic.net ou sur notre site divergence-fm.org pour retrouver tous les liens. Puis on va écouter le titre, le signe. À tout de suite sur Divergence Numérique. Le signe par l'artiste Forgé, un artiste landais qui donc met sa musique sous licence Creative Commons non commerciale Sampling Plus. Je vous invite à aller sur le site de dogmasic.net pour avoir les caractéristiques de cette licence qui permet
principalement de l'usage non commercial en écoute, modification, travaux dérivés, distribution, diffusion, et en usage commercial, tout le reste est sous autorisation de l'auteur. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, 93.9 sur Divergence FM, et puis sur 103.3 sur notre Radio Escapade, toujours en compagnie d'Emmanuel Charpentier pour cette deuxième partie de cette revue de presse. Recoucou Emmanuel.
Re-salut. Donc on reprend à la suite, encore
oui, tout
une
à
bonne
fait.
Partie d'articles des plus intéressants.
Absolument.
Donc l'article qui suivait, c'est un article sur Le Monde Informatique de Jacques Cheminat. Twitter mise sur l'open source pour doper son moteur de recherche. Et oui, Twitter, c'est un des plus gros sites en volumétrie qui existe, et en fait, c'est une plateforme technologique. Et en l'occurrence, on voit apparaître des nouvelles choses sur ces outils-là. En l'occurrence, un moteur de recherche qui s'appelle Lucene, qui est par ailleurs connu, c'est un des projets d'Apache, qui est aussi utilisé par Wikipédia, une grosse base de données qui a beaucoup de besoins de recherche qui soit performante. Et là, en l'occurrence, bon, ils se mettent à cet outil-là, ça va faire du bien. Toujours un contributeur de plus, c'est bienvenu. Techit.fr, un article de la rédaction de ce magazine, c'est les Linux et l'open source, le guide ultime. C'est essentiellement un article pour montrer un nouveau magazine, c'est un numéro hors série en l'occurrence, de Microportable Magazine, qui contient plus de 200 pages de tutoriaux pour maîtriser l'écosystème de Linux. Donc je n'ai pas encore acheté dans le commerce, mais je suis curieux de voir. En l'occurrence, il y a sur cette page web de techit.fr, il y a l'éditorial de Tristan Nitto, qui est un des fondateurs, un des piliers de la fondation Mozilla en Europe et en France, et qui explique beaucoup de choses sur la neutralité du net et l'informatique en général. Cyberpresse.ca, donc magazine web canadien. Et donc il y a un article de Pierre Asselin sur le PQ plaide en faveur du logiciel libre. Alors le PQ, comme son nom ne l'indique pas, c'est le Parti québécois. Et en l'occurrence, le Conseil du... c'est un article québécois où il plaide pour que le Conseil du Trésor retrouve les fasses des millions de dollars d'économies en tournant... en l'occurrence, ils tournent le dos au logiciel libre et donc ils perdent ces millions de dollars. Alors que justement, il faudrait essayer d'aider les dépenses informatiques en soutenant les logiciels libres et les logiciels qui sont parfois créés par des entreprises québécoises ou soutenus par des entrepreneurs québécois. Il y a eu notamment il n'y a pas très longtemps, toute une affaire en justice pour des problématiques d'appel d'offres faits par des administrations qui étaient bloquées pour n'utiliser que des logiciels propriétaires, en l'occurrence les logiciels de Microsoft, qui était très coûteux, très bloquant, mais malheureusement, ces administrations ne voyaient pas ailleurs que sur ce qu'elles connaissaient déjà. Donc on verra là aussi comment ça évolue. En l'occurrence, c'est des questions qui montent au niveau politique. C'est des plus intéressants, parce que ça peut vraiment mettre une pression pour que les décideurs s'ouvrent l'esprit.
Alors, pour nos amis québécois, n'hésitez pas à écouter La Voix du Libre, une émission mensuelle sur CKIA 88.3.
Tout à fait. Eux aussi doivent en parler, j'imagine. Il faudra que je les écoute un petit peu, voir ce qu'ils en pensent. Le dernier article, mais qui a eu d'autres rebondissements ces derniers temps, c'est sur l'informaticien, un article de Stéphane Larcher, Sky SQL, l'alternative à Oracle qui peut sauver MySQL. Alors, en gestation depuis 2010, la société Sky SQL, composée à 100% d'anciens de MySQL, démarra officiellement ses activités le mardi 12 octobre, il y a deux jours, dans plusieurs pays, dont la France, avec pour objectif d'offrir une véritable alternative à Oracle et assurer un avenir à MySQL et à ses utilisateurs. En l'occurrence, c'est encore un des énièmes rebondissements du rachat de la grosse entreprise Sun, qui produisait de très nombreux logiciels libres. Cette entreprise a été rachetée pour des milliards de dollars par Oracle, qui n'est pas du tout connu pour son attachement au logiciel libre et à l'open source. Et en l'occurrence, il y a eu beaucoup de conséquences à ce rachat. Des problèmes notamment sur la base de données. MySQL étant une des bases de données, enfin étant la base de données libre la plus utilisée au monde aujourd'hui, la plus reconnue, notamment pour faire nombreux sites web, eh bien Oracle, en rachetant Sun, a récupéré cette base de données. Et aujourd'hui, tout le monde a peur que, tout simplement, ben, ils la noient. Ils ont une autre base de données à eux qui s'appelle Oracle, qui leur apporte des millions et des milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'ils continueraient à supporter MySQL? Personne n'est vraiment d'accord sur le sujet, mais en tout cas, peu de monde est prêt à leur faire confiance, hein, outre mesure. Là, en l'occurrence, SkySQL va essayer de repartir sur un fork de la base de MySQL. Un fork en GPL, donc une licence libre forte, ça peut être intéressant. Par ailleurs, je suis informaticien, je vous recommanderais aussi de jeter un œil à PostgreSQL, hein, qui est l'autre base de données libre, qui vraiment fournit 98 à 99% de toutes les fonctionnalités que fournissent des DB2 ou des Oracle pour un prix modique et surtout avec une liberté à ce qui vient avec.
Justement, ce fork-là de SkySQL, ça me rappelle vaguement dans l'actualité aussi le projet LibreOffice.
Exactement, c'est ça, c'est tout à fait c'est la suite de ça. Il y a eu par ailleurs la communauté Open Solaris qui s'est sabordée en août. Donc Solaris, c'est le système d'exploitation de type Unix qui était fourni par Sun, et Solaris avait une version libre qui s'appelait Open Solaris. Mmh. Open Solaris, suite à des communications qui ne passaient plus avec Oracle, le board a tout simplement décidé d'arrêter. Et là, c'est la même direction prend Office, hein, où des gens qui travaillent sur Office en ont un peu assez des agissements d'Oracle et de la mainmise d'Oracle sur ce projet, sur ses développements, et ont décidé de faire un fork. Donc LibreOffice va évoluer, on va voir toutes les deux semaines, j'ai un petit peu eu accès à leur plan de com, il devrait y avoir des press releases pour nous montrer dans quelle direction ils vont, et beaucoup de gens qui se rapprochent d'eux. Alors notamment des gens comme Google, qui ont par ailleurs d'autres démêlés du côté des brevets logiciels avec Oracle. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup parlé, mais bon, Oracle, en rachetant Sun, a récupéré dans ses bagages de la propriété intellectuelle au sens le plus néfaste du terme, c'est-à-dire des brevets logiciels. Et en l'occurrence, ça leur permet d'attaquer Google sur ses téléphones Android parce qu'ils incluent une forme de Java qui ne leur plaît pas. Ouais. Donc, et là, c'est sorti il y a très peu de temps. IBM contribue par ailleurs à du logiciel Java sous les termes de la fondation Apache. Et bizarrement, ce qui est un petit peu hors du commun, ils ont décidé de se rapprocher d'Oracle. C'est très très étrange, on ne voit pas encore où est-ce que ça va, quelles sont les raisons. La stratégie qui est derrière tout ça, c'est peut-être pour se protéger d'attaques par brevet logiciel. C'est encore un peu flou. On va voir comment ça évolue. En tout cas, les brevets logiciels, il y a de vraies choses intéressantes à creuser. Brevets logiciels, c'est un problème essentiellement états-unien, car c'est là-bas que la loi est la plus forte et la loi reconnaît cette forme de propriété intellectuelle, alors qu'en Europe, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est utilisé à foison pour les grosses entreprises s'attaquent les unes les autres. Microsoft a attaqué certaines boîtes, notamment Motorola. Microsoft se fait attaquer par d'autres, se fait défendre par Apache. Oracle attaque Google, Apple attaque HTC, Samsung est attaqué par je ne sais plus qui. C'est un début de petite guerre intestine entre ces grosses boîtes, hein, qui pourrait vraiment dégénérer en une forme de troisième guerre mondiale des informaticiens. C'est presque amusant à regarder.
C'est un peu le sport national aussi aux États-Unis.
Ça commence.
Sur d'autres domaines.
Voilà, il n'y a pas encore eu de répercussions pour nous dans les médias, mais effectivement, on sent qu'il y a de l'argent qui peut être fait de manière assez facile. C'est... Et ils ont des meutes d'avocats qui sont lâchés sur sur les entreprises, c'est terrifiant.
Mm-hmm. Procès sur procès peut-être aussi, qui rapporte des sous pour l'un ou l'autre.
C'est ça, quand une entreprise n'innove plus, mais qu'elle a peut-être innové dans le passé, elle peut toujours essayer de bloquer ses adversaires avec de la paperasse. Mm-hmm. C'est terrifiant. Moi, j'avoue que posséder des idées, c'est vraiment le pire qu'on puisse imaginer dans un monde où les idées sont libres. Mm.
En tout cas, je te remercie pour cette revue de presse très riche, une revue de presse hebdomadaire que fait donc l'April, que l'on peut retrouver sur april.org également. Merci Emmanuel, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne continuation.
Merci à toi. Nous allons faire une petite pause musicale avant de retrouver la capsule de nos amis québécois de la Voix du Libre, avec toujours...
l'artiste Forger de Morsinx, qui donc a dépose sa musique sous portail dogmasic.net, une musique en licence Creative Commons, non commerciale, Sampling Plus 1.0, c'est-à-dire qu'on peut, en faire beaucoup de choses, vous pouvez la reprendre. Du moins qu'après, si vous en faites des usages commerciaux, vous êtes obligé de toute façon avec cette licence de contacter l'auteur. On va écouter To Live For To Go Where tout de suite sur Divergence Numérique. For To Go Where de l'artiste Forger en licence Creative Commons Sampling Plus non commercial 1.0, un artiste landais de Morsinx. Et puis vous êtes toujours sur Divergence Numérique, Divergence FM 93.9 et puis Radio Escapade 103.3. Avant de retrouver Jonathan Rouche, président de l'association ILOT, pour nous parler de fournisseurs d'accès associatifs, justement, une petite capsule de nos amis québécois, La Voix du Libre sur CKIA 88.3 avec IMAP, POP, SMTP.
Malgré son vieil âge, le courrier électronique est encore une des fonctionnalités les plus utilisées d'Internet. Ça fonctionne grâce à un ensemble de serveurs qui s'échangent les messages de la même façon que la poste fait transiter les lettres. Le protocole utilisé entre ces serveurs s'appelle SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. C'est lui qui permet d'envoyer des messages. Il fonctionne très bien depuis les débuts d'Internet et n'a presque pas été modifié depuis. Malheureusement, il est très peu sécurisé et très peu fiable. C'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui saturé de messages non sollicités et est utilisé pour transmettre des virus, des malwares, des scams, etc. Pour consulter les messages depuis un ordinateur, on utilise parfois le protocole POP, Post Office Protocol. Il permet de décharger les messages qui se trouvent sur le serveur pour les charger dans l'ordinateur. C'était un protocole très utile quand les connexions Internet étaient effectuées par modem. On se connectait, puis on téléchargeait les messages avant de se déconnecter. Maintenant que les réseaux câbles ou DSL sont tout le temps connectés, on utilise plus souvent le protocole IMAP, Internet Message Access Protocol. Celui-là permet de lire et de manipuler les courriels directement sur le serveur de courriel. Plus besoin de les télécharger, ils restent sur le serveur qui est normalement une machine plus fiable que notre ordinateur. De plus en plus d'utilisateurs n'ont même plus affaire avec ces protocoles qui font presque partie du passé. La plupart des courriels sont consultés par le web, et grâce aux interfaces dynamiques, leur consultation est aussi aisée que dans le passé.
Merci à la Voix du Libre pour cette capsule informative, une capsule, des capsules que vous retrouverez tout au long de ces émissions pour vulgariser un petit peu l'Internet, différents sujets que nous propose donc cette émission québécoise sur les ondes du 88.3 CKIA. Maintenant, nous sommes avec Jonathan Rouche, président de ILOT, qui va se présenter et nous présenter. Qu'est-ce que ILOT ?
Oui, bonjour Pascal. Alors, ILOT ou ILO, c'est au choix. Donc, Internet libre et ouvert pour tous dans l'Hérault. C'est tout simplement un FAI associatif, donc fournisseur d'accès Internet.
Une question. Y a-t-il déjà d'autres FAI associatifs qui existent en France ?
Bien sûr, bien sûr. On n'est pas des fous comme ça dans notre coin qui se lancent dans un tel marché dirigé par trois grosses entreprises, si on regarde bien.
Ou quatre.
C'est FDN, donc un peu... FDN, on va revenir sur ce qu'est FDN. C'est le plus vieux fournisseur d'accès Internet encore en activité, donc qui est associatif et qui, ces dernières années, a beaucoup fait parler de lui, surtout par son président Benjamin Bayard, qui a tenu plusieurs conférences, qui a été...
Qui tient toujours plusieurs conférences, régulièrement d'ailleurs.
Ah oui, qui sont très instructives et qu'on le voit aussi dans les médias, et qui a apporté beaucoup sur le sujet de la neutralité du réseau. Et donc, depuis sa fameuse conférence que vous connaissez peut-être, Internet libre ou Minitel 2.0, aux Rencontres mondiales du logiciel libre 2007 d'Amiens, il a un peu lancé cette idée de faire de l'essaimage, c'est-à-dire qu'FDN était le seul FAI associatif, et il est encore quelque part le seul. Et ce qu'il voulait, lui, c'est essaimer, donc c'est créer des FAI locaux, pour permettre à FDN de garder une de ses grandes forces, et une taille humaine. C'est-à-dire que c'est un exemple qu'il reprend souvent, c'est il connaît tous les visages et tous les noms des adhérents de FDN qu'on peut compter. Ils sont 150 adhérents, et une soixantaine, voire une centaine de lignes ADSL, et il les connaît tous. Et donc, faire des essaimages comme ça permettait de garder des tailles humaines et l'intérêt majeur que peut être un FAI associatif.
C'est vrai que sur les FAI, les 3 ou 4 FAI nationaux que nous connaissons, vous êtes un dossier client finalement.
Et oui, vous êtes un numéro.
Un numéro et puis un compte bancaire qu'on prélève mensuellement.
Oui. Et donc, comme je le disais, on n'est pas les seuls. On peut compter une vingtaine de projets, 25 pour être exact, qui sont en l'état d'embryon ou qui ont bien avancé. On peut en compter un en Belgique notamment. Et le plus avancé, c'est Same Wireless, bon, qui est au départ un réseau, un RAN, comme on dit, Rural Area Network. C'était déporter des connexions Internet dans les montagnes pour les gens qui avaient que du bas débit. Et aujourd'hui, les personnes qui font partie de ce réseau ont accès à un véritable Internet, donc derrière une IP publique pour chaque abonné et non pas un NAT qui bride tout.
Dirons-nous, une seule IP pour tout un réseau derrière.
Voilà.
C'est vrai que les RAN sont quand même, dans la plupart des associations, donc les réseaux ruraux, des associations qui se substituent à des opérateurs classiques parce qu'ils ne peuvent pas amener de la ligne cuivre jusqu'à leurs clients ou abonnés. Et donc, beaucoup d'initiatives sont nées aussi en tant que donc opérateur associatif dans ce domaine-là quand même.
Et oui, avec l'alternative qu'a apporté le Wi-Fi et son faible coût, mais on espère un jour arriver avec de la technologie fibre, etc.
Et donc l'ILO ou ILOT, parce que j'aime ILOT en fait, ça fait un peu quoi? Ça fait Internet libre, neutre, c'est quoi l'objet en fait de cette association qui se veut donc fournisseur d'accès.
Et ces dernières années, on a vu des lois, des projets qui ont un peu malmené le réseau dans son ensemble, donc notamment en France, Adopi, l'OPSI, aux échelles européennes, le paquet télécom, et on voit pointer le bout du nez des accords commerciaux comme l'ACTA, enfin, projet Gallo et j'en passe. Et donc... Internet, l'Internet neutre, donc, c'est un Internet...
C'est-à-dire que le fournisseur d'accès ne fournit que l'accès.
Voilà, c'est un tuyau, c'est un tuyau. C'est
un plombier.
Comme dit Benjamin Bayard, l'intelligence est à l'extrémité du réseau. Il n'est pas au milieu, comme dans le Minitel. C'est potentiellement chaque personne connectée à Internet est un serveur, peut héberger son contenu. Et on peut voir notamment avec Orange et d'autres FAI, le blocage du port 25, donc si vous avez bien suivi tout à l'heure, le port pour le SMTP, voilà, qui permet d'envoyer des mails. Et bon, ils ont bloqué pour des raisons évidentes à cause du spam et compagnie, mais ça empêche les abonnés Orange à héberger leur propre serveur mail.
Non seulement ça, il y a aussi Nérim, qui est aussi dans ce cas, qui bloque aussi le port 25, Nérim, qui est un autre fournisseur d'accès à Internet, et par des mesures de précaution, il trouve ce prétexte pour dire ben on vous bloque la sortie vers Internet, notamment sur l'envoi de courrier sur ce protocole-là. Donc c'est déjà un pas au-delà de la limite de la neutralité, puisque le fournisseur va un petit peu trop loin là-dessus, en bloquant justement des ports spécifiques à des heures particulières aussi, comme le fait Orange, on peut le voir, ou parce que une radio, pas la nommer, c'est Radio Grille Ouverte, qui s'est fait voir par Orange en disant vous transmettez trop de données sur ce port, évidemment, puisque la radio stream sur Internet, et donc Orange leur a bloqué ce port-là. Je trouve ça absolument aberrant, et on a très peu de recours vis-à-vis de l'opérateur actuel, si ce n'est que d'en changer finalement.
Et oui, et c'est pour ça que des alternatives se créent, et contrairement à ces gros FAI commerciaux qui infantilisent les clients en leur disant vous ne savez pas gérer votre connexion Internet, nous la bloquons, et ben nous responsabilisons l'adhérent qui aura un tuyau, et que s'il n'est pas capable de gérer son bout d'Internet, et ben on lui apprendra tout simplement.
Voilà, donc c'est mettre une route en place, disons un accès, et après savoir s'en servir, ça c'est du domaine de la personne. C'est, on va pas dire j'ai mis une route en place, mais comme vous ne savez pas conduire, je prends la voiture pour vous.
Exactement, et donc ça part sur un bon chemin, vu qu'à l'heure actuelle, il y a, donc je disais, 25 projets qui se sont mis en place. La mailing list, donc là où tous les échanges se font entre personnes intéressées sur ce sujet, compte actuellement 240 abonnés, et donc ce qui est quand même assez important. Sur le mois dernier, il y a eu 100 abonnés en plus, c'est une grosse expansion, donc ça veut dire que le sujet intéresse et qu'on va avoir sûrement beaucoup de choses qui vont avancer dans ce milieu-là, notamment avec justement la fédération FDN, qui va justement fédérer tous ces petits FAI, et qui va permettre de un peu centraliser les efforts et devenir vraiment une masse alternative pour permettre à Internet de résister face à toutes ces oppressions qu'on peut voir dans la politique et les commerciaux et compagnie.
Je te propose une petite pause musicale avant de se retrouver juste après pour poursuivre cette présentation, ce débat ou cette information. Toujours avec notre artiste landais, Forger, en musique libre, Creative Commons, non commercial, Sampling Plus 1.0. Le titre, c'est Destructive Germe, de l'album In Wape. Et puis vous êtes toujours sur Divergence Numérique.
Thank you.
et on va jusqu'au bout des morceaux sur Divergence Numérique ou comme sur Elle est libre, même musique puisque le morceau ne se coupe pas. Et voilà, un morceau donc de notre artiste actuel pour cette Divergence Numérique, un artiste landais, Forger, qu'on retrouve sur dogmasic.net, un artiste qui nous fait de la musique en licence Creative Commons non commerciale, Sampling Plus, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre ces morceaux pour vos propres créations, et puis quand vous en faites un, vous voulez en faire un usage commercial, en tout cas, il suffit de contacter l'auteur pour directement négocier avec lui, ce qui est une bonne initiative, contrairement à notre contrat avec des maisons qui gèrent les droits des artistes et qui se gavent plein pot. Retour avec Jonathan Rouche, président de l'association ILO, ou ILOT, I-L-O-T-H, fournisseur d'accès Internet associatif en Languedoc Roussillon.
Et oui, jeune association qui reste tout à faire. Donc, bien sûr, on est actuellement trois sur le projet, mais on espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. Donc, vous qui nous écoutez, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, mais que vous y connaissez pas grand chose, eh ben, renseignez-vous, venez, on vous apprendra ce que c'est du vrai Internet. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, il y a fdn.fr avec, par exemple, le cycle de conférences à Sciences Po de Benjamin Bayard qui, en trois conférences, vous apprendra ce que c'est Internet techniquement. Même si vous n'y connaissez rien, vous regarderez ces conférences, il y en a pour 2-3 heures, et ça y est, vous saurez ce que c'est du réseau.
Finalement, j'allais dire, tout le monde peut se monter fournisseur d'accès Internet ?
Et oui, tout le monde, il suffit d'un minimum de volonté et de personnes prêtes. Et là, parce que, bon, bien sûr,
mais
c'est...
Mais après, techniquement, comment ça se passe ?
Techniquement, c'est un peu délicat. Ça demande du temps et de l'argent aussi, vu que les fournisseurs actuels sont un peu en position de force, notamment France Télécom, avec sa boucle locale cuivre qui lui appartiennent.
Alors, pour les néophytes quand même, c'est-à-dire que la boucle locale, c'est le dernier tronçon entre votre prise téléphonique chez vous, en cuivre, hein, sur du fil cuivre, jusqu'aux centrales téléphoniques. Donc ça, c'est un tronçon qui appartient toujours à France Télécom, qui tombe sur de l'équipement à France Télécom, sur cette technologie-là, et dont les autres opérateurs se servent pour aller chez vous, les autres opérateurs tiers, hein, donc les trois plus évidemment d'autres opérateurs comme des opérateurs associatifs comme FDN ou comme ILO maintenant.
Et oui, et donc les trois opérateurs qu'on va nommer, Free, Neuf et c'est tout, hein, ils
Orange.
Payent gros chèque à France Télécom pour pouvoir utiliser justement, bon, c'est le réseau téléphonique, hein, cuivre, ils payent un gros chèque. Et Neuf et Free, ils ont l'avantage avec France Télécom d'avoir leur propre infrastructure ADSL. Donc c'est les fameux DSLAM qui se trouvent dans des sous-répartiteurs qui permettent de faire passer l'internet, donc l'ADSL sur les lignes cuivre. Et pour utiliser cette infrastructure, et ben il faut forcément dépendre d'un de ces trois opérateurs. Orange, donc France Télécom, ne permet pas à des petits opérateurs d'utiliser cette infrastructure.
Si tu as des sous, en tout cas.
Si tu as beaucoup de sous.
Parce qu'il faut savoir que les autres opérateurs qui sont implantés, donc qui font ce qu'on appelle du dégroupage, hein, c'est-à-dire que, mais qui utilisent le dernier tronçon de votre ligne téléphonique chez France Télécom, sont implantés dans les locaux de ces nœuds de répartition d'abonnés, les fameux NRA de France Télécom, et paye aussi à France Télécom donc une location d'emplacement qui coûte très très cher, qui est absorbée par le volume évidemment colossal de nombre d'abonnés sur l'ensemble de la France, et évidemment des petits opérateurs modestes auront forcément du mal à s'implanter dans les locaux de France Télécom, ça c'est sûr.
Et oui, et donc je disais, pour utiliser cette infrastructure, bon, Orange demande énormément d'argent. Jusqu'à il y a un an et demi, permettait à FDN, on ne sait pas comment ils ont réussi, c'est la force d'action de Benjamin Bayard, a réussi à avoir ce qu'on appelle un contrat de collecte. Donc ça permet de collecter en passant par le réseau de l'opérateur, donc dans ce cas-là 9, pour joindre l'abonné en bout de ligne et apporter sa connexion sur le réseau FDN. Mais 9 a clôturé le contrat dans des conditions un peu étranges. Et donc FDN a dû se rabattre sur Nérim, dont on parlait, donc il y a un petit fournisseur d'accès qui vise un peu les professionnels, qui lui passe par Neuf et Orange.
Petit au début, mais en fait, il ne se fait pas trop connaître, mais en tout cas, il est plus professionnel que les autres.
Voilà, il cible un peu son marché pour pas finir comme un énorme.
Mais c'est vrai que la dernière partie, cuivre, appartient toujours à France Télécom.
Et il appartiendra toujours, d'ailleurs.
Alors, y a-t-il d'autres alternatives que cette
fameuse... Oui, justement, il y a d'autres alternatives. Et c'est locale. Ça qui est plus ou moins intéressant. Donc, notamment la fibre optique, qui se veut un peu comme le remplaçant du cuivre et du câble.
Il faut dire que la technologie cuivre est quand même dépassée.
Ah oui, depuis fort longtemps, avec la fibre, on atteint des débits faramineux.
Donc, sur des longueurs plus importantes,
sur d'ailleurs. Sur des longueurs beaucoup plus importantes. Notamment les câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique et autres, c'est de la fibre optique. Mm-hmm. Et donc, la fibre optique, ça reste encore cher, mais il y a ce qu'on appelle des délégations de services publics qui ont mis en place, notamment dans le département Numéro, qui a mis en place un réseau de fibre optique pour desservir les zones blanches. Le but, c'était 2 mégas partout dans l'Hérault. On s'est plus ou moins atteint. Le problème avec ces réseaux, c'est que il est...
2 mégas, ça fait juste quand même.
Ah oui, c'est un peu juste, mais bon, allez savoir comment ils ont bricolé leur truc. Donc, notamment, c'est les délégataires, Vinci, LD Télécom et compagnie. C'est un peu les mêmes qu'on retrouve sur toutes les DSP en France. Et il y a quelques difficultés à parler avec ces gens-là quand on n'est pas une grosse société avec les sous... Mais on y viendra. Sinon, autre technologie dont on parlait, donc c'est le Hertzien, le Wi-Fi, avec son faible coût. C'est ce qu'on utilise souvent, d'ailleurs, à Divergence, par exemple, pour déporter des directs.
Absolument. Ou dans d'autres contrées, ceux qui nous écoutent sur le 104.1 ou 103.3, c'est une liaison hertzienne qui achemine le signal jusqu'au site d'émission. Comme ça, un accès Internet déporté, alors que le cuivre dans la partie, dans le local émetteur, ne pouvait aller que jusqu'à un certain débit faible, d'ailleurs, pour un coût assez exorbitant aussi. Donc une économie réalisée et puis une qualité supérieure en débit par justement une technologie qui permet de déporter comme ça des accès à plus haut débit alors que le cuivre n'est pas présent ou est trop long à certains endroits.
Et oui, c'est une solution que certains qualifient de bricolage à la MacGyver, mais bon, au moins, ça marche.
Ils gardent un peu leur lobby, à mon avis. S'ils disent, oui, bon, notre cuivre, il est moisi, mais je te le fais payer très cher, alors qu'avec ta technologie qui coûte 4 fois moins cher, tu fais beaucoup plus, il ne va pas dire, roule. Il va essayer plutôt de casser ses concurrents sur ce domaine.
Et oui, on peut...
C'est un peu ça, non ?
Et oui. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire avec France Télécom, vu...
Mais alors, c'est vrai que Internet, quand on parle aux gens, Internet, pour eux, maintenant, c'est plus l'Internet, c'est plutôt autre chose, de la télé, du téléphone, des offres qu'on appelle triple play,
voire quadruple play, qui coulole le chat sur Facebook, tout ça. Ouais. Eh oui, mais ça, c'est...
Mais ce serait plutôt des fournisseurs de services sur Internet que plutôt des fournisseurs d'accès, puisqu'en fait... l'accès n'est que le prétexte de connexion pour vous vendre autre chose.
Et oui, ça tend, enfin, depuis que Free s'est un peu lancé sur le marché, il a tout cassé, ça tend complètement sur ça. C'est en vous vendant de la télé et du téléphone sur la DSL que Free permet d'avoir un coût considéré nul à l'époque de 30 euros par mois, alors que c'était des offres à DSL à 60 euros par mois. Free est arrivé et a tout cassé. En fait, ils ont été obligés de vendre du service comme ça pour pouvoir un peu... Enfin, ils ont bricolé pour avoir les coûts minimes et compagnie. Et on arrive à un forfait unique à 30 euros par mois qui a fait un peu de mal aux opérateurs, on va dire, classiques. Et que Free est sur une position de chieur, on va le dire. Et, on le voit encore aujourd'hui. Par exemple, on a parlé avec l'Adopi. Free oui, ne veut pas envoyer de mails et va les imprimer, les envoyer par courrier postal à l'Adopi. Enfin bref, des choses un peu marrantes comme ça. Mais bon.
On fait un peu les réfractaires, quoi. On se démarque. Quoi.
Voilà, ils se démarquent un peu, mais ça reste...
Mais bon, on est noyé quand même dans la masse.
Voilà, ça reste du gros commercial fait pour enrichir une personne en particulier qu'on ne nommera pas, malgré les petites choses qu'il a apportées à l'Internet en France. Notamment en France, on sait bien que c'est là où on a les forfaits Internet les moins chers en Europe. C'est grâce à Free quand même. Et ça, c'est pas rien. Mais si c'est pour transformer le réseau comme il le transforme, eh ben, ça perd un peu de son intérêt.
Et alors, la carte à jouer pour Ilot ?
Ah bah, la carte à jouer pour Ilot, la carte que joue FDN et que joueront tous les FAI locaux, c'est proposer... Internet, tout simplement, un tuyau, c'est une connexion sur le net, et puis c'est tout.
Et puis c'est tout, donc on ne regarde pas ce qui circule.
On ne regarde pas.
En sachant que, comme le dit Benjamin Bayer, fournisseur d'accès, c'est comme la poste, comme le disaient aussi les Québécois. Donc on achemine des lettres, les fameux paquets, ou des paquets aussi, d'un endroit à un autre, sans regarder ce qu'il y a dedans. Juste un transporteur de colis. D'ailleurs, il y a des articles de loi du code pénal qui dit que, par exemple, toute ouverture donc, de lettres, hein, de plis par une personne autre que le destinataire constitue un délit de violation de correspondance de l'article 226-15 du code pénal. Et c'est donc des peines hein, qui sont mises sur ces délits-là. Donc, quand un fournisseur d'accès commence à regarder ce qui s'y passe sur la connexion Internet, il viole un petit peu le secret de correspondance aussi en regardant de plus près ce qui s'y passe. Et ça, ça c'est pas bon, ça.
Et oui, c'est pas bon, mais ça, ça tend vers ça en prenant les prétextes de qualité de service, de réseau. C'est un peu des sujets, enfin des prétextes un peu fallacieux, on va dire. Mais bon, on fait avec et justement, faisons ensemble pour créer une alternative à ça.
Alors, qu'a besoin Lilo aujourd'hui, puisque c'est une toute jeune association qui se veut donc fournisseur d'accès Internet associatif, hein, alternatif. Quels sont les besoins ?
Bah, les besoins, c'est des besoins humains et aussi des besoins un peu matériels. Là, premièrement, ce qu'il faut, bah, c'est des gens qui dirigent un peu la chose parce que à trois, on va pas faire grand-chose quoi, et c'est pas un grand intérêt d'ailleurs, faire son petit bout comme ça. Donc il faut des gens, tout simplement, des gens qui sont un minimum intéressés par le sujet du réseau, un minimum débrouillard, un minimum geek, comme on dit, qui veulent s'investir là-dedans, ou même des gens tout simplement qui n'y connaissent rien, mais... qui veulent s'approprier un peu cette technologie-là.
En tout cas, un site peut-être à contacter ou une email à contacter.
Alors le site web, pas encore, c'est en cours de réalisation, mais pour nous contacter, c'est simple, c'est contact@ilot.net, donc contact@ilot.net, ilot.net, et le site devrait arriver dans pas très longtemps.
Je te remercie, Jonathan. À une prochaine fois, sans doute, on aura l'occasion d'en reparler. On va faire une petite pause musicale avec toujours notre artiste landais, Forger ou Forgé, de Morsinx, avec le titre Conséquences en licence Creative Commons, licence non commerciale, Samping Plus. Conséquence par l'artiste Forgé Landais de Morsinx. Une musique en licence Creative Commons non commerciale, Samping Plus, toujours sur Divergence Numérique 93.9 à Montpellier, sur Divergence FM, sur Radio Escapade 103.3, 104.1. On termine cette Divergence Numérique par l'agenda du libre avec ce jeudi à Nîmes à 20h. À l'épicerie Crocobio, c'est le rendez-vous des libristes de là-bas avec les seconds jeudi à Nîmes, donc rendez-vous à partir de 20h. Et puis le 16 octobre à la médiathèque Émile Zola à Montpellier, une table ronde musique et licence ouverte de 15h à 17h où à l'occasion donc de l'inauguration des deux nouvelles bornes de téléchargement légal Minimazic, une palette d'artistes et d'intervenants seront sur le plateau pour débattre de sujets tels que la musique libre, le téléchargement d'œuvres, Adopi. Donc si le sujet vous intéresse, donc venez en discuter à l'auditorium musique à l'entresol à la médiathèque Émile Zola à Montpellier. Ainsi se referme cette divergence numérique. Je remercie Divergence FM, Radio Escapade. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, portez-vous libre.
Terra States. Terra Networks. Terra States. Terra Networks. Terra States.